C'est une belle tradition dans l'Église que d'annoncer le jour de l'Épiphanie, les fêtes mobiles qui toutes tournent autour du mystère de Pâques. Le mercredi des cendres qui nous y prépare et ensuite le déploiement des beautés et des grâces issues du cœur du Christ à la rédemption. Mais revenons à Bethléem. Ou plutôt, commençons par Jérusalem. Les mages y arrivent, l'étoile ne brille plus pour un tout petit temps. Alors ils se dirigent vers les autorités et vont au palais du roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Après s'être manifesté aux pauvres, aux petits, incarné dans les bergers des environs de Bethléem, Jésus veut se manifester aux grands, aux non-juifs, à des scientifiques, à des personnalités politiques ou religieuses, car aucune catégorie d'hommes n'est à exclure du mystère du salut. Tous veulent, Jésus veut les sauver, tous. L'Évangile note que les chefs des prêtres, les scribes, chefs religieux et Hérode, homme politique, apprennent à cette occasion que la promesse de Dieu se réalise, s'accomplit dans un enfant, ce à quoi, bien sûr, ils ne s'attendaient pas. Pour eux, l'étoile, ce sont des étrangers, des mages. Pour eux, la connaissance de la naissance du Fils de Dieu passe par des scientifiques, parce que Dieu veut passer par la raison pour aiguiller notre foi. En faisant consulter les chefs des prêtres, ce sont les chefs religieux qui apprennent que le Sauveur est là, tout proche, dans cet enfant. En faisant connaître à Hérode sa naissance, par l'intermédiaire des mages, c'est aux responsables politiques de tous les temps que Jésus veut aussi se manifester. Enfin, en se manifestant aux mages, c'est le monde de la raison et de la science qui est appelé à la lumière de la foi. Et l'on a là trois réactions très différentes. Pour les chefs des prêtres et les scribes, qui répondent en rappelant les Écritures et en indiquant Bethléem, c'est l'indifférence complète. Ils citent les Écritures, certes, ils les connaissent par cœur, mais ils les ignorent par le cœur. Cette parole ne les a pas touchés. Elle reste une parole historique qui n'a eu aucun effet sur leur cœur. Ils sont indifférents, ils ne bougeront pas, ils n'iront pas à Bethléem et ne rencontreront pas l'enfant de la promesse. Ce sont eux-mêmes ou leurs successeurs qui, dans quelques années, crucifieront Jésus. La science des Écritures est restée chez eux lettre morte. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Il est venu chez lui, dira saint Jean, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est l'attitude de l'indifférence. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Le cœur s'est desséché, sclérosé, devenu incapable d'accueillir les promesses de Dieu autrement que selon leur propre conception. En réalité, cette réponse n'en est pas une, et elle n'est que le prélude au refus de Dieu. Deuxième réaction, celle d'Hérode. Il est le roi des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain, un roi d'ailleurs au pouvoir très limité, un petit sous-préfet. Mais il est très fier de son titre et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre. Il a quand même fait assassiner plusieurs des membres de sa famille, y compris ses propres fils, pour sauvegarder son pouvoir. Petit Roitelet. Et voilà que des astronomes étrangers qui ont fait un long voyage viennent à lui et lui demandent où est le roi des Juifs. Pour Hérode, cette nouvelle est une menace. Et nous savons qu'il entrera dans une colère, une fureur extrême. Alors il manœuvre, joue du mensonge, se fait préciser la date de la naissance, non point pour aller l'adorer, mais pour aller le tuer et faire disparaître on ne sait combien d'enfants, peu importe que cela coûte la vie à d'autres victimes innocentes, cet enfant-là ne doit pas vivre à côté d'Hérode. Il n'a pas compris que cet enfant de Bethléem ne menaçait pas son pouvoir. Enfin, les mages, scientifiques, rationnels. Ils posent un acte de foi en se mettant en route, car ce n'est pas seulement le fait de cette étoile qui les guide, mais l'annonce de la naissance d'un roi pas comme les autres. Y a-t-il, dans toute l'histoire de l'humanité, un seul roi terrestre dont la naissance ait été annoncée ainsi par un astre brillant dans le firmament? À sa lumière, ils ont marché vers la lumière, quittant leur pays, leurs biens, leurs habitudes, sans savoir ce qu'ils allaient trouver. Et arrivés dans la maison de Jésus, ils se prosternent, dans une attitude de sainte et humble soumission. Leur foi et leur humilité les font se mettre à genoux devant un enfant. La science et la raison les a mis en chemin. La foi les met à genoux. Alors que signifie pour nous ces trois réponses à la nouvelle que Jésus est parmi nous? La réponse des chefs des prêtres et des scribes, l'indifférence. L'indifférence aux nombreux appels de Dieu. Nous vivons dans une société privée de transcendance. L'horizon se limite à quelques centimètres autour du nombril. Ça ne va pas très loin. Et on en a vite fait le tour. Et pourtant, bien de nos contemporains, et parfois peut-être un peu nous-mêmes, avons bien du mal à en sortir. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit pas venir nous déranger dans notre petite vie tranquille. Oh, certes, comme dit la chanson, « j'ai pas tué, j'ai pas volé ». Non, on n'a pas fait de grands mots, mais on se contente de cette honnête médiocrité, parce que le bien-être, la satisfaction des sens, la facilité, la mondanité sont là, qui nous tiennent. Alors, les exigences de l'Évangile, on va tâcher de s'en accommoder, on va tâcher de négocier. Combien de vies végètent par peur de s'engager? Combien de vies chrétiennes végètent par peur de se bousculer, de se laisser déranger par Dieu, de quitter notre confort? Que de religions, que de vocations religieuses ou sacerdotales qui n'aboutissent pas, étouffées par les soucis du monde, parce qu'on est devenu incapable de s'engager. Si l'on n'est pas capable de s'engager pour des petites choses, comment donnera-t-on tout au Seigneur lorsqu'il le demande? Ne pleurons pas sur la baisse des vocations, mais posons-nous la question. Que faisons-nous pour nous engager véritablement lorsque Dieu nous appelle à l'exigence, mais aussi à la beauté d'un amour vrai, entier, complet? C'est le monde qui étouffe. Une des paraboles de Jésus le rappellera. La semence qui a été jetée dans les ronces, ce sont les ronces, les soucis du monde qui l'ont étouffée. La réponse d'Hérode, nettement plus cruelle, on passe à un niveau supérieur. Dieu, non seulement est trop exigeant, mais il est gênant, donc il faut l'écarter. On ne veut pas de sa volonté, parce qu'il gêne notre ego. Trop occupé à défendre son palais et à en jouir le plus possible, Hérode est devenu totalement aveugle à l'étoile qui pourtant brillait dans le même ciel que celui des mages. Il ne cherchait pas Dieu, se croyant menacé par lui, il se cherchait lui-même. Sans même aller jusqu'au grand dame que la personne de personnes du même sexe, autant d'Hérodes qu'on en commun, qui sont autant de refus catégoriques du Dieu maître de la vie. Cette attitude est en fait beaucoup plus commune, parce qu'elle est tout simplement celle du péché. Le péché n'est pas simplement une erreur, une faute de frappe, une faute d'orthographe. C'est pas simplement une maladresse. Le péché comme péché est un refus de la volonté de Dieu. Je ne veux pas ce que Dieu veut. Je veux ce que je veux, indépendamment de Dieu, quelle qu'en soit la forme extérieure. Dieu dérange notre soif de pouvoir, d'argent ou de plaisir. C'est dans notre cœur, il nous faut l'admettre. Et nous serons toujours dérangés par la parole de Dieu. Et nous avons le choix entre l'accueillir ou l'écarter. Et dans le péché, précisément, on l'écarte pour agir selon ce que nous voulons, même au prix de notre amitié avec Dieu. La troisième réponse est celle des mages. C'est l'accueil sans réserve d'un signe ne pouvant venir que de Dieu. C'est l'accueil humble, désintéressé de Dieu dans notre vie. Alors certes, il vient bousculer nos projets. Certes, nous ne ferons pas ce que nous voulons et nous ferons même le contraire de ce que tout le monde fait. Parce que tout le monde ne veut pas de Dieu. Le monde ne veut pas de Dieu. Alors ne nous étonnons pas si notre fidélité nous expose aux moqueries du monde. Ne nous étonnons pas si notre fidélité à Dieu nous vaut bien des croix, bien des difficultés, bien des peines. Dieu vient nous proposer quelque chose d'infiniment meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Comme le disait un prêtre au moment de sa mort, il avait encore, à vue humaine, du temps pour vivre et pour servir ses frères, un excellent prêtre, quelqu'un dont on dira plus tard « Nous vivions à côté d'un saint et nous ne le savions pas ». Ce prêtre disait sur son lit de mort « Dieu ne démolit nos projets que pour les améliorer et nous améliorer ». Méditons cette parole. Dieu ne démolit nos projets que pour les améliorer et nous améliorer. Il ne veut pas nous laisser dans la médiocrité. Aujourd'hui, Dieu s'annonce toujours dans notre vie de multiples manières, par des intermédiaires humains que Dieu a placés sur notre route. Les parents pour des enfants, parfois aussi les enfants pour des parents. Des parents disent « Je vais venir à la messe parce que mon fils, ma fille, va à la messe. » Pour ces parents, c'est l'enfant qui a été l'étoile, qui les guide vers le Christ. Parfois, ce sont des événements qui nous bousculent, qui nous dérangent et qui nous convertissent ou nous reconvertissent. Parfois, ce peut être des choses totalement inattendues dans les peines, les croix et les souffrances. Comme ce grand malade en phase terminale dans un hôpital de Bogota, Il est athée, ne veut pas de prêtre, mais sa femme appelle le prêtre et dit au prêtre, il ne veut pas de vous. Le prêtre entre dans la chambre et le malade qui le voit arriver lui demande s'il est prêtre. Oui, je suis prêtre. Alors partez, je ne veux pas de vous. Le prêtre reste dans la chambre. Et le malade lui réitère sa demande. Partez, je vous ai dit, je ne veux pas d'un prêtre. Pourquoi restez-vous ? Et le prêtre lui répond très tranquillement. J'ai vu beaucoup de saints mourir. Je n'ai jamais vu un athée mourir et je voudrais voir ce que cela donne. Et il reste là et il attend. Et le malade lui dit, asseyez-vous. 2 heures de confession. Et il meurt réconcilié avec Dieu. Son étoile, c'était un prêtre qui l'avait refusé d'abord. Mais l'étoile a été la plus forte parce que la grâce de Dieu a été la plus forte. Il a accepté de laisser craquer son armure, sa carapace. Il s'est laissé toucher, déranger dans ses pseudo-certitudes. Dieu l'a vaincu et lui a donné la vie éternelle. Alors puissions-nous, comme les mages, comme tous les convertis de tous les siècles depuis Jésus-Christ, depuis ce malade mort dans la grâce de Dieu, puissions-nous être toujours plus humbles et plus dociles à suivre l'étoile que Dieu met sur notre route, apprenant à lire les étoiles, apprenant à lire les signes de Dieu, apprenant à reconnaître la présence de Dieu qui ne nous laissera jamais indifférents. Elle nous transformera toujours parce que la présence de Dieu est toujours transformante dans le cœur qui l'accueille. À tous ceux qui l'ont reçu, dira saint Jean, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.